Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi les infos de l'Indonésie, qui sera continué avec l'histoire aujourd'hui et la mise au point. L'heure suivante, comme tous les jours, nous allons vous présenter le magazine culturel et ensuite l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter la rubrique courrier et musique. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi les infos de l'Indonésie.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la voix de l'Indonésie. On se retrouve encore dans le journal d'aujourd'hui. Le topic du journal d'aujourd'hui sont MERC construira un hôpital indonésien au Myanmar. Un ministre indonésien des Affaires étrangères assistera à une réunion du OCI pour discuter de la mosquée Al-Aqsa et la Palestine. Le gouvernement a ouvert un centre de réhabilitation des tigres de Sumatra à l'ouest de Sumatra. Voici le journal complet. MERC, ou Comité de Secours Médical d'Urgence, construira l'hôpital indonésien à Rakhine, au Myanmar, comme l'un des moyens de créer la paix au milieu des conflits sociaux entre bouddhistes et musulmans dans ce pays. Le président de MERC, Sarbini Abdul Murad, a dit récemment à Jakarta qu'il a coopéré avec la Croix-Rouge indonésienne et les représentants bouddhistes indonésiens, et il a souhaité que le conflit puisse être assoupli et la paix peut être créée entre les bouddhistes et les musulmans. Selon Sarbini Abdul Murad, MERC a déjà parlé au vice-président Yusuf Kalla, qui est également le président de la Croix-Rouge indonésienne, pour discuter de ce plan. Le vice-président propose le MERC d'établir également une coopération avec les représentants bouddhistes indonésiens. Cette coopération est stratégique pour montrer la présence de la paix entre les communautés religieuses en Indonésie. MERC a eu construit un hôpital indonésien à Gaza, Palestine. D'après Sarbini Abdul Murad, la construction de cet hôpital est l'une des applications de la diplomatie douce dans les zones de conflit. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, va participer à la réunion ministérielle extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, ou OCI, à Istanbul, au 1er août pour discuter de la situation dans le complexe du Al-Aqsa et les efforts d'indépendance de Palestine. Le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a déclaré à Jakarta que cette réunion était la demande et la proposition du gouvernement indonésien au secrétaire général de l'OCI et les gouvernements de plusieurs pays de l'OCI. L'Indonésie soulignera la position et son point de vue et expliquera des mesures qui doivent être faites pour que la situation dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa s'améliore. L'Armanata a aussi dit que dans cette réunion, le gouvernement indonésien demandera la solidarité et l'unité des pays membres de l'OCI de maintenir le statu quo du complexe de la mosquée Al-Aqsa et d'encourager toujours le soutien de la communauté internationale pour l'indépendance de la Palestine. Il a également souligné que les pays membres de l'OCI devaient renforcer l'unité pour encourager la communauté internationale à résoudre immédiatement la question de la Palestine. La ministre d'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya, a ouvert le centre de réhabilitation de Tigre de Sumatra à Dharmasraya le samedi. Ce mouvement est pour commémorer la Journée internationale des Tigres qui arrive le 29 juillet. Le centre de réhabilitation des Tigres de Sumatra à Dharmasraya se situe dans la zone de l'entreprise Tidar Kerinci Agung à Dharmasraya, l'ouest de Sumatra, avec une superficie de réhabilitation de 10 hectares. Il est le premier centre de réhabilitation, l'idée du secteur privé. L'inauguration du centre de réhabilitation est une forme de mise en œuvre de la loi numéro 5 en 1990 sur la conservation des ressources naturelles et des écosystèmes qui est la responsabilité et l'obligation du gouvernement et de la société. Elle a ajouté que pour répondre à ces défis en tant qu'élément de la société, l'entreprise Tidar Kerinci Agung a été impliquée dans les efforts de conservation pour construire ce centre de réhabilitation. Chers auditeurs et auditrices de la Voix de l'Indonésie, voilà le journal d'aujourd'hui.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie. Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve encore avec moi dans la rubrique « La Nouvelle Indonésie » qui vous présente des diverses informations intéressantes hebdomadaires à travers de l'Indonésie. La première nouvelle vient de Pekanbaru, Riau. Le gouvernement de Singapour a offert de contribuer au développement du tourisme dans la ville de Pekanbaru, la province de Riau, à travers de certains nombres de programmes qui ont été développés dans le pays du Lion. Le ministre principal de la Défense et des Affaires étrangères, Dr. Muhammad Maliki bin Osman, a déclaré à l'agence de presse Antara, à Pekanbaru mercredi dernier, qu'il y avait de nombreuses possibilités qui pourraient être développées dans le domaine touristique. L'un parmi eux est l'industrie qui prend base sur le MICE. ces meetings, incentives, conventions and exhibitions. Maliki a exprimé ce sujet après une rencontre avec le maire de Pekanbaru, Firdaus MT. Il a dit que l'un des premiers efforts qui peut être fait est d'offrir une formation aux employés sur le programme de MIC à Singapour. Pendant ce temps, le maire de Pekanbaru, Firdaus, a favorablement accueilli l'offre du gouvernement de Singapour pour développer le tourisme dans la ville de Pekanbaru. Il espère de gagner beaucoup d'expérience et certainement d'attirer les touristes de Singapour pour visiter Pekanbaru. Ensuite, la nouvelle suivante vient de Mataram, Nusa Tenggara Barat. Le gouvernement de Mataram va immédiatement lancer la licence d'application basée sur Android afin de faciliter et d'offrir des services publics. Le chef de l'investissement et l'intégration des services publics de la ville de Mataram, Chokorda Sudira Mulyarsa, a dit mardi dernier que cette demande de licence à base d'Android sera lancée le 31 août 2017, en même temps avec la commémoration d'anniversaire de la ville de Mataram. La dernière nouvelle vient de Banjarnegara, Java Central. 9 enfants ayant des cheveux bouclés sont prêts à participer à la célébration Ruatan, qui aura lieu lors du Festival culturel de Dieng 2017 dans les régions touristiques de Dieng, Central Java, les 4 au 6 août 2017. Le chef de la communauté Dieng Pandawa du village de Dieng Kulon, le quartier Batur, Ali Fauzi, a exprimé mardi dernier que la tradition Ruatan, ou rituel des bains sacrés dans la société javanaise pour les enfants ayant des cheveux bouclés, était le sommet de la célébration du festival culturel de Dieng qui aurait lieu au temple Arjuna. Ensuite, il a également dit que la cible des arrivées des touristes au cours du festival culturel de Dieng 2017 était similaire que celui des années précédentes, à savoir de 3500 touristes achetant des forfaits du festival. Le festival sera animé par plusieurs spectacles culturels et expositions de produits des petits et moyens entreprises. En plus, les touristes seront invités à profiter des levées du soleil ou sunset, d'un certain nombre de sommets dans le plateau et à ne pas oublier la visite du temple Arjuna, le cratère Sikidan et le lac légendaire de la Gavarna. Chers auditeurs et auditrices, voilà la nouvelle de l'Indonésie.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. On se retrouve encore dans la rubrique de la mise au point de la semaine.
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
Dans cette édition, on va parler du Parlement indonésien qui ratifie le règlement gouvernemental qui remplace de la loi l'accès à l'information financière pour la fiscalité. La réunion plénière du Parlement de la République d'Indonésie a adopté le règlement gouvernemental qui remplace la loi numéro 1 de 2007, je voulais dire de 2017. La loi est émise pour soutenir la mise en œuvre du système d'échange d'informations ou Automatic Exchange of Information, qui sera appliqué en 2017. Cela a été dit par le vice-président du Parlement, qui est aussi le président de la réunion plénière, Agus Hermanto, au Parlement Senayan, Jakarta, le jeudi, le 27 juillet. Avec l'adoption de ce règlement gouvernemental, la Direction générale a le droit de consulter les comptes des clients qui sont en Indonésie et à l'étranger. Les membres de l'11e commission du DPR, de la fraction de Gerindra, Hari Gunawan a déclaré que la fraction de Gerindra comprend la nécessité de respecter les engagements dans l'échange d'informations financières automatiques. La ministre des Finances, Mme Sri Mulyani, a déclaré que l'approbation du DPR de la République indonésienne est la forme réelle du soutien du Parlement à la réalisation de l'engagement de l'Indonésie dans la mise en œuvre des accords internationaux pour faire la transparence de l'information financière à des fonds fiscaux. Elle est aussi un effort visant à renforcer des recettes du secteur fiscal afin de mettre en œuvre le développement national qui est plus équitable et plus juste. Selon Sri Mulyani, la législation de ce règlement donne la confiance au monde que l'Indonésie est capable et prêt à appliquer l'échange automatique d'informations de compte financière en septembre 2017. En participant à cet échange, l'Indonésie recevra automatiquement les informations financières appartenant les contribuables d'Indonésie qui est sauvé dans les pays partenaires de AEOI, qui a été difficile à détecter par la Direction générale des impôts. Concernant la ratification de la loi gouvernementale numéro 1 de 2017, certains banquiers estiment, entre autres, le directeur de finances de la banque Danamon, Vera Evelim, que l'adoption de ce règlement concerne l'ouverture des données des clients qui ont des dépôts de moins de 1 milliard de roupies. Le gouvernement et les banques doivent bien coopérer pour augmenter la socialisation. Outre la socialisation aux clients, le gouvernement doit également assurer lié aux données qui doivent être soumises par la banque au gouvernement. Pendant ce temps, le président directeur de la banque Mandiri, Kartika Wiryatmojo, a déclaré que les banques continuent à socialiser sur la réglementation d'imposition. Il a dit qu'en adoptant de ce règlement, l'Indonésie pourra établir des accords bilatéraux avec les pays qui ont appliqué ces règles fiscales, comme Singapour, la Suisse et Hong Kong. Voilà, chers éditeurs et auditrices, la mise au point de la semaine. Wadia Bin Abdillah, l'ambassadeur du Royaume du Maroc à l'Indonésie, guidé par Muhammad Suartono. Vous pouvez écouter l'interview complète en ondes courtes sur streaming de www.voi. Voici l'entretien.
Bon, chers auditeurs, chers auditrices, la voix de l'Indonésie. Maintenant, je suis avec l'ambassadeur marocain en Indonésie, Wadia Bin Abdillah. Et ce soir, ici, nous voulons interviewer à propos le jour national du Maroc. Bonjour, monsieur.
Bonjour, salam alaikum wa rahmatullah.
Monsieur, est-ce que pour les Marocains, quel est le sens du jour national à présent?
Bonjour, je vous remercie. Je remercie Adnan pour le Voice of Indonesia pour cette rencontre, à cette occasion qui est une occasion chère aux yeux de tous les Marocains. L'occasion, ce que nous appelons la fête nationale, le jour national, National Day, c'est la fête du trône qui est une fête millénaire que nous avons. Ça fait partie de notre patrimoine national. C'est notre héritage, c'est l'occasion pour tous les Marocains, tous les responsables, tous les représentants du peuple de renouveler à Sa Majesté le Roi leur attachement à son auguste personne et au trône alaouite. Elle se renouvelle tous les ans. C'est un événement qui est cher à tous les Marocains. C'est l'occasion pour tous les Marocains à travers leurs représentants de se retrouver avec le Roi pour lui renouveler leur amour et leur attachement.
Pourquoi la fête, ce n'est pas l'indépendance de la France, c'est pas pourquoi le trône du roi, c'est le plus important?
Le protectorat français était un passage de 40 ans au Maroc. La monarchie au Maroc a plus de 1000 ans. Et donc la monarchie, c'est la continuité. C'est grâce à la monarchie que le Maroc est aujourd'hui un pays stable, un pays d'ouverture, un pays de démocratie. Et donc la monarchie, c'est la continuité. Et les Marocains sont conscients de ça. Et donc c'est pour ça que ce jour est le jour le plus important aux yeux de tous les Marocains.
Pourriez-vous nous expliquer comment les relations entre l'Indonésie et les Marocains dans le domaine politique et économique et ethnique.
L'Indonésie et le Maroc sont des pays éloignés, mais plus proches que n'importe quel autre pays. Quand j'ai rencontré Son Excellence le président Joko Widodo lors de ma présentation de l'aide de créance, je lui ai renouvelé ça. Je lui ai dit que l'Indonésie représentait le lever du soleil pour les pays de l'islam. Et le Maroc, c'est le coucher du soleil. Et donc, nos deux pays se retrouvent et se retrouvent dans leur démocratie, dans leur ouverture, dans leur diversité. Et ça, vous ne le retrouvez pas dans les autres pays. Vous le retrouvez seulement avec cette force. On le retrouve moyennement ailleurs. Mais avec cette force et comme fondement, la Pancasila en Indonésie et pour le Maroc, la constitution, les fondements de la nation sont ces éléments-là. Or ça, on les retrouve et dans les textes et en pratique. Quand vous vous promenez en Indonésie ou au Maroc, vous ressentez cette ressemblance en ces deux pays. Alors quand vous avez toute cette proximité entre les pays, l'économie, le religieux, le politique doivent aller de même. Historiquement, jamais le Maroc et l'Indonésie n'ont eu un problème. Ils n'ont eu que coopération, amitié et partage. Et ça, c'est extrêmement très important. Ce que nous disons, et personnellement pour être d'actualité, aujourd'hui, je constate que les relations économiques entre nos deux pays ne sont pas à un très bon niveau. Parce que les opérateurs économiques ont toujours pensé que nos pays étaient trop loin et que c'était difficile de faire du commerce et du business avec l'Indonésie. Les choses changent de plus en plus. Indofood, aujourd'hui, a une usine installée au Maroc. Les Marocains importent le café indonésien. Les Marocains importent le thé indonésien. Les Marocains importent l'huile de palme indonésienne. Les Marocains importent le caoutchouc indonésien. Et importent également des pièces d'industrie et de rechange pour l'automotive. Les Indonésiens importent le phosphate et les fertilisants marocains. Et je pense que beaucoup de riz qui est mangé ici ou des fruits ont été également arrosés par des fertilisants marocains. L'huile d'olive, l'huile d'argan et d'autres produits. Mais nous pensons que nous pouvons faire beaucoup mieux. Nous travaillons dessus, nous travaillons sur ce dossier. Avec Kadine, qui est à la Chambre de commerce, nous avons créé cette année le Conseil d'affaires Indonésie-Maroc. Ce conseil existe au Maroc. Au Maroc également, nous avons un conseil d'affaires Maroc-Indonésie. Nous allons les pousser à travailler ensemble. Cette année aussi, nous recevons en octobre, et c'est la première fois que nous recevons une grande délégation d'hommes d'affaires marocains qui viennent à l'occasion de Jakarta Expo pour rencontrer leurs homologues et leurs amis indonésiens et pour commencer pratiquement à faire des affaires parce que nous n'avons plus le droit d'attendre. Ça, c'est au niveau économique. Au niveau religieux, nous travaillons beaucoup ensemble. Vous savez que le Maroc donne des bourses d'études chaque année à 30 étudiants indonésiens pour aller faire leurs études au Maroc, pour également s'ouvrir. C'est également l'ouverture de l'Indonésie à d'autres horizons, pour s'ouvrir sur la pratique de la religion islamique au Maroc. Et ça dure depuis des années. Dans le domaine sécuritaire, et nous voyons ce qui se passe ces dernières années au niveau terrorisme, au niveau de l'internationalisation du terrorisme, les services marocains et indonésiens travaillent de façon excellente. Et ça, nous sommes fiers du travail qu'ils font ensemble et des résultats. Et donc, sur tous les domaines, nous œuvrons ensemble. Nous pouvons faire beaucoup mieux sur l'économique, et ça, je l'avoue, et je travaille dessus. C'est un peu un de mes objectifs. Et voilà.
Vous avez dit tout à l'heure, il y a l'obstacle de la distance entre l'Indonésie et le Maroc. Quel est, d'après vous, comment pour résoudre ce problème?
Moi, je pense que c'est un faux problème. Certains opérateurs économiques parlent de grande distance qu'il y a entre les deux pays. Or, c'est un faux problème quand on voit le commerce qui est fait par certains pays de la région, d'Asie du Sud-Est, avec le monde entier. Et la distance n'a jamais été un problème pour ces pays-là. Donc la distance ne doit pas être un problème pour l'Indonésie. La distance ne doit pas être un problème pour les Marocains. Ce qu'il faut, c'est une volonté. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des accords plus approfondis entre les deux pays. Nous travaillons avec nos homologues indonésiens. Nous travaillons, et du côté indonésien et du côté marocain, sur la possibilité de libre-échange. La possibilité de libre-échange sur un certain nombre de produits où nous sommes complémentaires. Le Maroc ne veut pas être concurrent avec l'Indonésie. L'Indonésie ne veut pas être concurrent avec le Maroc. On doit se compléter. Et donc, sur les produits où nous sommes complémentaires, nous sommes en train de travailler sur une liste de produits sur lesquels nous pouvons avoir un libre-échange. Et si nous avons ça, donc les échanges peuvent être plus forts que ça.
Est-ce que pourriez-vous expliquer quel est le plus accentué?
Là, comment accentuer? Moi, je pense que la première des choses, vous voyez comment on est sur... Depuis que la connexion sur les portables fonctionne, on passe à des milliards de connexions entre les gens. Aujourd'hui, connecting people. Nous devons connecter les gens. Et pour connecter les gens, ils doivent se rencontrer. Ils doivent se retrouver. Soit physiquement, par visite de délégation, par visite de responsable. Je peux vous affirmer que cette année, en début de l'année prochaine, beaucoup de ministres et de responsables marocains et indonésiens vont échanger des visites. Que nous espérons que même que les années à venir, les visites se fassent entre Sa Majesté le Roi et Monsieur le Président, Son Excellence, le Président de la République d'Indonésie. Nous espérons cela. Mais aussi les opérateurs économiques, les opérateurs dans le domaine touristique où notre coopération peut être plus accrue. Parce qu'il y a une attente et de la part des Marocains et de la part des Indonésiens. Et donc, il faut faire rencontrer les gens. Il faut que les gens se connaissent davantage et savent qu'il y a de réelles opportunités d'échange.
Okay. Sir Leaders, voilà notre interview avec l'ambassadeur marocain en Indonésie, Wadia Benapida.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les tamusants et stimulants. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglusmar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglusmar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglusmar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
santé, des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve encore dans la rubrique des magazines culturels. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à Sleman, dans la province de Yogyakarta, pour goûter Jada Tempeh. Donc, vous y restez toujours avec nous à RRI, Service International, la voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, toutes les régions en Indonésie possèdent un repas typique. À Yogyakarta, il y a Jada Tempeh, d'origine Sleman, l'une des régions de Yogyakarta, plus spécifiquement à la région de Lereng Gunung Merapi, Kaliurang. Jada Tempeh est une combinaison de deux repas typiques javanais. Ce sont jada, une sorte de la fermentation du riz, et tempeh, le soja fermenté. Le tempeh dans ce plat est fait avec le processus sucré, on l'appelle bacem. Jada Tempeh est généralement servi avec des piments, donc il donne le goût sucré, épicé et savoureux, tout combiné. Il est bon à goûter pendant le temps froid, comme l'origine des Jada Tempeh est Kaliurang et Sleman, des régions froides. Cette nourriture est très populaire dans la région de Kaliurang depuis 1950, notamment quand le roi de Yogyakarta, en ce moment Hamengkubuwono IXe, aimait bien cette nourriture. Il a souvent envoyé son peuple à Kaliurang pour acheter ses aliments. Ce repas est devenu un aliment favori des aristocrates du palais de Yogyakarta. Et jusqu'à présent, Jada Tempeh reste la nourriture typique favori de Yogyakarta. La façon à manger Jada Tempeh est un peu unique. Deux plats de jada sont empilés avec le tempeh au milieu, comme si on mangeait du burger. Donc, on l'appelle aussi souvent le burger javanais. Jada Tempeh devient aujourd'hui l'icône du tourisme culinaire de Yogyakarta, spécifiquement à Kaliurang. Le prix du Jada Tempeh est d'environ 10 000 jusqu'à 20 000 rupies par plat. Chers auditeurs et auditrices, voilà l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui dont le sujet est Jada Tempeh. On se retrouve encore demain avec des sujets aussi intéressants. Au revoir.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs et auditrices de La Voix de l'Indonésie, je suis ravi de vous revoir dans la rubrique Indonésie en couleur. Dans cette édition, je vous présente une information sur la Journée mondiale contre la traite des êtres humains. Restez toujours avec nous à www.voi.co.id. Chers auditeurs, chaque 30 juillet, le monde entier commémore la Journée mondiale contre la traite des êtres humains. Cela a d'abord exprimé par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2013 par la résolution numéro 68 et en 92. La Journée mondiale contre la traite des êtres humains est ensuite commémorée compte tenu de nombreux élevés de cas et de la traite des personnes dans le monde entier. L'Organisation internationale du travail estime qu'il y a 21 millions de personnes dans le monde qui sont victimes de l'esclavage moderne. Et pendant ce temps, les rapports indiquent que 71% des victimes sont des femmes de tout âge. Par conséquent, la traite des personnes est considérée comme une insulte et une menace sérieuse pour la dignité et les droits de l'homme. Cette année, l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes choisit les mesures pour protéger et aider les victimes de la traite des personnes comme le thème général de la Journée internationale contre la traite des êtres humains. Le thème met l'accent sur l'un des problèmes d'aujourd'hui, les migrants et les réfugiés, car le grand mouvement de migrants et de réfugiés étant souvent causé par les conflits où les catastrophes naturelles représentent un risque de traver des êtres humains. L'esprit de la lutte contre la traite des êtres humains et l'esclavage moderne a été répandu dans le monde. Diverses politiques et mesures sont prises par les partis gouvernementaux et privés. L'un des moyens uniques qui pourrait voler l'attention de l'univers virtuel s'est passé au Royaume-Uni, où une chaîne hôtellerie y lançait un programme contre l'esclavage. Dans ce programme, d'environ 400 employés ont été entraînés à identifier les victimes de l'esclavage et la traite d'humains. Grâce à ce programme, la chaîne d'hôtels a sauvé beaucoup de victimes. Par rapport à la Journée mondiale contre la traite des êtres humains, le gouvernement des États-Unis a annoncé récemment la traite des personnes dans un rapport. Sur les 187 pays évalués dans les rapports, l'Indonésie est catégorisée dans le niveau 2, qui signifie que l'Indonésie est considérée inachevée dans l'élimination de la traite des êtres humains, même si elle a fait des efforts importants. En ce qui concerne le statut de l'Indonésie dans les rapports, de nombreuses parties continuent de fournir un soutien. Le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a dit qu'elle continuerait à renforcer la coopération avec les différents parties afin que les victimes d'actes criminels de trafic d'êtres humains ne soient pas augmentées. Chers auditeurs, voilà cette édition de l'Indonésie en couleur. On se retrouve encore dans la prochaine édition de l'Indonésie en couleur avec des sujets aussi intéressants. Au revoir.
vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Nous sommes de nouveau ensemble dans la rubrique Courrières et musique. L'équipe de l'émission française de La Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courrières, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi en même temps présenter des chansons indonésiennes. Dans cette édition, nous allons vous présenter un groupe de musique qui s'appelle Noa. Avant d'écouter leur chanson, je vais saluer d'abord nos éditeurs. Bonsoir, chers Lupna et Idriss Boudina. Comment allez-vous? Bon week-end à vous et j'apprécie sincèrement que vos réponses soient agréables. Et puis bonsoir, Narmouchi Noiri, à l'Algérie. Merci pour vos emails et restez toujours en contact avec nous. Et puis bonsoir, Maurice Mercier, en France. Comment ça va mes amis? J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie. Et puis, ensuite, on écoutera une chanson intitulée Andaikan Kau Datang, ou en français Si tu viens, chantée par le groupe de musique Noa.
Jawaban apa yang kan ku beri?
Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie dans la rubrique Courrières et Musique. Cette fois, je présente aussi des chansons du groupe de musique noire. Maintenant, je vais saluer nos éditeurs en France. Fabien Serve, Jean-Marie Monplot et Christian Gibaudot. Bonsoir à tous. Et puis toujours en France, passons le bonjour à René Rondin. Meilleures salutations à notre ami Hervé Duval de France. Merci à vous pour le rapport d'écoute. Et puis aussi bonjour pour Léla Oumad. Chers amis, on écoutera la deuxième chanson intitulée « Biarkan ku sendiri » ou en français « Laisse-moi tranquille ». Bonne écoute.
Kasihku terlalu cepat kau serahkan cintamu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu sayang, biar ku sendiri. Kau berbuat begitu, ku tak sangka malangnya nasibku.
Sayang, biar ku sendiri.
Je vous remercie d'être fidèle à la voix de l'Indonésie et voilà, chers amis, c'est la fin de ces courrières. Merci de continuer à suivre nos programmes. Toute l'équipe francophone de la Voix de l'Indonésie vous dit un grand merci à tous. Nous attendons de bonnes nouvelles de vous. Restez toujours en contact avec nous. Et voici les dernières chansons, Cinta Bukan Dusta et Kupu Kupu Malam, ou en français, L'amour n'est pas de mensonge et Le papillon nocturnel, chanté par Noah. Et bon, bonne écoute et au revoir.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.